Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 56, et je prends le train, donc je suis très pressé. C'est pour ça que je parle très très vite. Oui. Non, c'est pas vrai, je prends pas le train, je prends la machine à donner.
Ah ben oui, c'est ce que j'allais dire. On le sait tous, en plus.
Ça va bien, Benny?
Oui, ça va, très bien.
En cette fraîche soirée.
Mais il a fait bon aujourd'hui, mais le temps devrait se rafraîchir grandement ici, mais je sais pas par chez toi s'il fait chaud.
Et il fait plus frais ce soir. D'accord. Et oui, car Comic City a décidé de vous donner la météo aussi.
Voilà. Il faut s'attendre à des ondées nuageuses et des averses si vous êtes dans le coin de Paris.
Il n'est pas impossible d'ailleurs que nous nous arrêtions en pleine review pour commenter un éventuel changement de météo en plein cours de ce podcast.
Oui, exactement. Exactement, on vous tient au courant.
Sachant que c'est diffusé avec du retard, ça va être super utile.
Ça ne sert donc strictement à rien, effectivement.
Donc, comme d'habitude, on va commencer l'épisode de cette semaine par le numéro de la semaine. On n'a qu'un numéro de la semaine cette fois-ci, mais un numéro assez sympathique, le Morphin Comics numéro 56.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Qui date d'il y a très 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 longtemps, c'est publié chez DC, j'ai même pas pris la date, 1940.
D'accord,
voilà, ça vient de me revenir.
Nous n'étions pas nés. On est né en 50, hein, il faut quand même préciser.
Ouais, ben oui, c'est vrai. Donc le Morphin Comics, c'est numéro 56, c'est la première apparition de Congo Bill. Congo Bill qui deviendra plus tard le personnage de Kongorilla, qu'on a pu revoir récemment, voilà, dans Justice League Cry for Justice, ou faisant partie des membres de la Justice League.
Oui.
En tout cas, à sa création, Congo Bill est une sorte d'aventurier justicier qui passe toutes ses histoires en Afrique. Il aide les tribus locales contre les braconniers, contre les esclavagistes, contre les gens qui essayent de s'emparer des richesses des différentes tribus, etc.
Mais c'est déjà un singe à l'époque ?
Non, du tout. Et c'est là justement que c'est intéressant, parce que le personnage, Congo Bill, deviendra Kongorilla, mais des années plus tard. En fait, c'était une petite histoire de 8 pages à chaque fois, comme beaucoup de ses publications à l'époque. Il restera dans Morphin Comics pas très très longtemps, il passera ensuite dans Action Comics, où il restera très longtemps, jusqu'au 248. Et c'est justement au 248 qu'il deviendra Kongorilla, par un échange, en fait, en accompagnant un vieux chef de tribu qu'il connaissait bien dans la mort. En quelque sorte, il l'a sauvé, il l'a ramené dans son village avant qu'il ne meure. Ce vieux sage, j'ai failli me planter en plus.
Ça aurait expliqué pas mal de choses.
Ce vieux sage, en fait, lui donne une bague qui, quand il la frotte, pendant une heure, son esprit va dans le corps d'un gorille doré et inversement.
Très bien.
Voilà.
Ok, d'accord. C'est-à-dire que l'esprit du gorille doré se retrouve dans le corps d'un humain.
Exactement. Voilà.
Et alors, ça donne un résultat comment?
Bah, ça donne un gorille qui comprend pas trop ce qu'il fait sans poil et pourquoi il n'a plus autant de force qu'avant.
Pourquoi il se les gèle autant, alors?
Par exemple.
D'accord.
Une chose assez intéressante, c'est que Congo Bill aura le droit à son sériole à la télévision. Enfin, en tout cas au cinéma à l'époque.
Comme Green Hornet, alors. Ah non, pas du tout.
Green Hornet.
Je pensais plutôt à un sériole radio, excuse-moi.
Non, là, c'est vraiment un sériole vidéo, quoi. Enfin, si on peut appeler ça vidéo. En 1948. Comme quoi, les adaptations de comics, ça date pas d'hier. Hein.
Ouais.
Quinze épisodes, d'une vingtaine de minutes, et qui sont sortis en France, d'ailleurs, 4 films différents. Congo Bill, roi de la jungle, Congo Bill, mise en danger, La revanche de Congo Bill, et Congo Bill, héritier du grand cirque.
Donc j'allais déconner en te disant, est-ce qu'on peut trouver ça? Mais oui, en plus, on peut le trouver.
Et on peut le trouver en DVD, DVD US uniquement, où il y a les 15 épisodes de réunis.
Bon, et quand sortira le Blu-ray Collector, alors?
Alors là, par contre, bonne question. En tout cas, c'est assez marrant, parce que c'est un personnage qui a eu ses heures de gloire à l'époque, et qui aujourd'hui a quand même relativement bien disparu, même si James Robinson nous l'a ramené sur le devant de la scène.
Oui. Et donc, est-ce qu'il a déjà rencontré Gorilla Grodd?
Eh bien, c'est plus vraiment un spoiler aujourd'hui, puisque le numéro est sorti dans le Flashpoint Gorilla Grodd. Je ne sais plus le titre exact. Kongorilla se fait buter dès le premier épisode par Gorilla Grodd, justement.
Eh ben voilà. Eh ben comme quoi. On a eu la même idée. Non, en fait, c'est moi qui ai scénarisé. D'ailleurs, l'intégralité de Flashpoint, j'ai donné des idées à Jeff Jones qui s'est dit « Ah oui, tiens, c'est pas mal, je vais faire ça.
» Tu sais que si c'est pourri, les fans vont te tomber dessus.
Non, mais c'est très bien.
Si la fin est pourrie, les fans te tomberont dessus.
Mais la fin est très bien. D'ailleurs, je vais te raconter la fin. Alors, en fait... donc, bon, allons-y. Eh ben, passons aux news, du coup. Nous avons chez Marvel, cette semaine, eu un certain nombre de teasers. De teasers qui font penser à un probable retour des Defenders. Donc cette équipe qui était constituée notamment de Doctor Strange, Hulk, le Silver Surfer, puisque les trois personnages ont été représentés dans les teasers. On a en plus Iron Fist et Red She-Hulk qui
Manque
viennent s'ajouter
Namor.
à la bande.
Manque Namor hein, au cast des Defenders.
Il manque Namor. Alors, qu'adviendra-t-il de Namor? Ou est-ce qu'il va être présenté d'ailleurs dans, dans les futurs teasers? On
ouais,
ne sait
alors,
pas.
Rien ne prouve que ça s'arrêtera à 4 teasers.
Oui, 5.
Ah, bah je n'ai pas vu le cinquième, tiens.
Hulk, le
Ah,
dernier.
Hulk tout court, d'accord. Bah je l'ai
Ah,
pas vu,
oui,
celui-ci.
mais voilà. Donc Hulk est annoncé aussi.
Clairement, ce sont les Defenders.
Oui, ouais, là, le doute est difficilement possible. Sauf si ils nous sortent après des personnages qui n'ont plus rien à voir, comme Mickey, Donald et Picsou, et que
De toute
finalement, ce
façon,
soit...
même si ce n'était pas sous le titre des Defenders, ce ne sera ni plus ni moins qu'un ersatz des Defenders, étant donné qu'il y a tous les personnages quasiment de
Originaux.
cette équipe-là, quoi.
Tout à fait.
Donc le lien sera franchement facile à faire. Defenders dont on reparlera tout à l'heure d'ailleurs.
Très bien. Bon, enfin en tout cas c'est la mode chez Marvel de faire des équipes un petit peu avec tout et n'importe quoi.
Bah moi je dirais que c'est un vieux retour au old school quand même. On te ramène des vieux trucs qui avaient marché dans les années 70-80 et en espérant raviver certains fans ou certains
Ouais.
nostalgiques de l'époque.
Ouais. Bon, s'ils sont toujours là et s'ils lisent toujours des comics.
Non, mais des gens, enfin, on peut très bien avoir commencé à lire des comics dans les années 90 et
Ouais.
Adorer ce qui a été fait dans les années 70 ou 80.
C'est vrai. Effectivement. Alors, on va passer
Ah, donc
à...
en espagnol ou en italien, je ne sais pas.
Oui.
Les langues latines sont obscures pour moi.
Je ne sais plus. passons, alors, indé d'ici.
Bon, on va faire de l'indé un petit peu. C'était
Ouais.
tout pour les Marvel?
Ah oui, c'est tout cette
Ah, bah, il
semaine.
n'y a pas grand-chose hein, cette
Oui, non.
semaine.
Bah, San Diego Comic-Con arrivant à grands pas, on
Et
aura
oui.
sans doute bien plus de choses d'ici là.
Aura-t-on le nom de ce fameux Reborn?
Oui, ce fameux Reborn, dont on ne sait toujours pas d'ailleurs ce qu'il en est. On n'a pas plus d'informations.
Les paris restent ouverts. Donc au niveau des indés, eh ben, on va s'arrêter chez Topco cette semaine pour les deux petites news. Déjà, la série Witchblade sera reprise par Tim Seeley, l'auteur d'Hack and Slash, Hack Slash plutôt d'ailleurs,
Ouais.
et Diego Bernard et Fred Benes. Donc à partir du numéro 151, tandis que Ron Mars et Stefan Sejic, qui étaient actuellement les auteurs de Witchblade, qui ont un très long run et qui a apparemment bien plu aux fans, je n'en sais rien parce que je ne les ai pas lus, hein, vont partir sur un nouveau projet pour novembre chez chez Topco, toujours, hein, j'ai l'impression. Et donc, on a un espèce de gars habillé en prêtre, un mélange entre le personnage de Blazer, donc John Constantine et Preacher,
Oui, totalement, ouais.
avec juste un petit mot, Deliver us from evil. Délivre-nous
Ouais.
du mal pour les non-anglophones. Et donc on nous promet plus d'informations à San Diego, à savoir donc, comme je disais, la série commencera en novembre. Le dessin est très sympathique, bon, c'est du Stefan Sejic, hein. Après si on n'aime pas, je pense qu'on n'aimera pas là non plus. Mais moi je trouve ça joli, quoi.
Ouais, en tout cas on peut s'attendre effectivement peut-être à un mélange entre du Hellblazer et du Preacher, en tout cas ça y ressemble beaucoup, et un fan, j'avais lu sur internet, disait que ce personnage serait apparu au fait dans Witchblade à un certain moment, que ce serait donc une sorte de spin-off, en tout cas ça s'insérerait dans l'univers de Witchblade.
Bah,
Bon, on
tant
verra,
mieux.
de toute façon, on aura plus d'explications tantôt, comme diraient les... je sais pas...
ça me fait penser que j'ai oublié une petite news Marvel. J'en avais une supplémentaire d'ailleurs.
Ouais.
Le hardcover Captain America Red Glare, qui
Oui.
va reprendre donc le début du run de Mark Waid et Andy Kubert sur le titre, va ressortir donc le numéro 14. C'était le volume 3 de la série, en version originale. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un épisode où il y avait le Red Skull en narrateur. Mark Waid l'avait écrit, et c'était quand même assez difficile à l'époque d'avoir un Red Skull en narrateur, puisque bien sûr, les idées prononcées par Red Skull étaient un petit peu controversées. Donc, Marvel avait tout simplement réécrit des dialogues. Donc Mark
D'accord.
Waid avait dit vous retirez mon nom des crédits, c'est pas la peine, quoi. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est moi je n'ai pas écrit ça, donc vous enlevez mon nom. Là, dans ce hardcover, il y aura l'épisode original tel qu'il a été pensé par Mark Waid.
D'accord.
Donc
Bon, en même
ça
temps,
c'est.
justice est faite, quoi.
Voilà. Ça sort en octobre, bah pour ceux qui comptaient s'acheter ce hardcover. Et c'est une. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, quoi, d'avoir enfin un épisode qui a été finalement censuré en quelque sorte.
Ouais, effectivement.
Voilà, c'était la petite news oubliée de Marvel.
D'accord. Mais tant mieux, en plus ça correspond bien au sujet, voilà, la
oui.
petite news oubliée. Pour le comics oublié, ou en tout cas qui n'était pas sorti à l'époque, on passe chez DC du coup.
Oui.
Alors chez DC, en octobre, on a eu bon, moult sollicitations, hein, de nouvelles couvertures, des numéros 2, etc. Mais aussi l'annonce de nouvelles séries et mini-séries.
Ce qui va porter le chiffre quand même assez haut, hein, je trouve.
Ouais, mais en fait, si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'actuellement, les titres étaient à plus de 52, en fait, en tout
Ouais.
et pour tout.
Ouais, mais déjà, 52, ça paraît astronomique. Si en plus on nous en rajoute une bonne dizaine, parce qu'au rythme où ça va, où on les annonce, j'ai bien peur que ce soit ça, qu'est-ce qui va nous attendre encore en novembre? J'ai peur que ça fasse un peu trop et que le marché puisse pas suivre.
Ouais. Et en tout cas, si on comptait les titres actuels chez DC, il y en a déjà un bon paquet.
Moi, je me demande, enfin, quel est l'intérêt de faire un reboot, de capitaliser sur ce gros reboot, de relancer tout au numéro 1, et donc d'inciter vraiment les lecteurs à acheter pas mal de choses, si on continue de leur sortir de nouveaux titres. Alors ok, ce sont des mini ou ce genre de choses-là, donc c'est pas non plus des séries régulières. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop et que certains de leurs titres réguliers en pâtissent, justement.
Ouais, enfin en même temps, j'ai envie de te dire, plus rien ne marche hormis Green Lantern et Batman, donc autant tout tester, quoi, jouer le tout pour le tout sur toutes les franchises. Enfin, on verra ce que ça donne dans
Ah
les
oui, on
faits.
verra ce que ça donne, hein, bien sûr.
Alors, commençons peut-être par une série que tu attends peut-être, The Shade,
Ah
par
bah,
James Robinson.
putain, un peu que je l'attends, bordel de merde.
Voilà, parce que c'est
Oui,
quand
ça c'est
même.
de l'expression, ça vient du fond du cœur.
Voilà, James Robinson, c'est pas non plus que Justice League récemment, c'est surtout Starman.
Ce n'est surtout pas de Justice League récemment,
Oui, voilà,
devrais-je dire.
c'est surtout Starman, donc son run des années 90, superbe run sur Starman, et donc The Shade étant un personnage de cet univers, ça pourrait être pas mal.
Bah, c'est clairement l'anti-héros qui est apparu dans. Enfin, il n'était pas apparu dans Starman, mais il a pris toutes ses lettres de noblesse dans Starman. Et bah là, donc, comme tu le disais, une maxi-série. 12
En 12.
épisodes. Et puis surtout, une annonce d'une avalanche d'artistes monstrueux sur ce titre, puisqu'on va avoir plusieurs arcs. Enfin, en tout cas, plusieurs. Je pense que ce sera des arcs, hein,
Oui, oui,
vu
oui,
qu'on va
bah.
avoir un changement de dessinateur. On a
Vraisemblablement.
que Liam Neur pour les trois premiers, Javier Pulido du numéro 5 au 7, numéro 8 ce sera Jill Thompson, numéro 9 à 11 Fraser Irving et le numéro 12 par Jin Ha.
Voilà, donc vous savez ce qu'il faut taper sur par SMS pour voter pour chaque truc. Bon, Steve vient donner les numéros.
Et puis toutes les covers seront de Tony Harris.
Voilà. Et d'ailleurs, la couverture du numéro 1 me fait penser à la couverture de ce teaser dont on vient de parler chez Topco. C'est quand même un petit côté shade chez le personnage mystère, je trouve, qui ressemble à Hellblazer et à Preacher, quoi.
Ah, moi je trouve pas, mais pourquoi pas? Enfin, moi je le vois pas, mais après tout, moi je dis pourquoi pas, quoi.
Enfin bon, on verra.
En tout cas, moi ça me fait plaisir de voir Tony Harris, même si c'est que sur des couvertures sur le personnage de The Shade.
J'ai l'impression que c'est le retour à la mode des personnages mystiques.
Ouais. Bah, en tout cas, DC a l'air de bien capitaliser là-dessus.
Oui, bah même Marvel, avec un petit peu de Defenders, il y a quand même du Doctor Strange dedans, du Iron Fist. Enfin bon. On verra ce que ça donne dans les prochains mois. Autre titre annoncé, donc des mini-séries. Alors, il y a une mini-série sur le pingouin qui s'appellera Pingouin Pain and Prejudice. Voilà, une mini-série en 5. Gregorwitz au scénario et, alors attention, Simone Kourdranski au dessin.
Qui je crois était passé sur l'univers de Spawn, de mémoire.
Ah, c'est bien possible. C'est bien possible. Enfin voilà, donc bon, bah le pingouin, on le voit un peu partout en ce moment. Une mini-série sur lui,
Mais
bof.
qu'il devrait revenir sur ses origines.
Ouais.
Alors sera-ce des nouvelles origines façon DC New, puisque c'est comme ça qu'il faut prononcer le reboot, hein, ou est-ce que ce sera par rapport aux origines du pingouin que l'on connaît? Alors apparemment, on parle de voir son enfance, etc.
Un petit peu un pingouin proche du pingouin de Tim Burton, peut-être.
Peut-être, ouais. Je suis pas particulièrement intéressé.
Non, moi non plus. Peut-être plus intéressant, par contre, la mini-série en 5 sur Huntress, par Paul Levitz et Marcus Tau. Alors, ma seule inquiétude, c'est que Paul Levitz, on le voit partout. Donc, bon. Mais déjà, le personnage m'intéresse un peu plus que le pingouin, je dois te dire.
Mais on a deux scénar, enfin maintenant trois scénaristes vraiment présents chez DC maintenant. On a donc Geoff Jones, qui va être sur trois ou quatre titres. On
Scott
a
Lobdell.
Scott Lobdell et Paul Levitz.
Et Paul Levitz, qu'on retrouve aussi à partir d'octobre sur une mini-série en 6, Legion Secret Origin, avec Chris Batista au dessin. Là, ça fait surtout penser à Batman Secret Origin, en fait.
Batman, Secret Origin.
Superman Secret Origin.
Je me disais, à moins que ce soit un truc, j'ai peut-être raté, non, mais ça aurait pu être
Eh ben,
possible.
c'était vachement bien, c'était pour Bruce Partey, c'était Geoff Jones pourtant au scénario et dessin même. C'est étonnant que tu ne l'aies pas vu. Non,
En
mais
parlant de
voilà, donc.
Batman et de Geoff Jones, j'attends toujours ce fameux Earth One de Batman.
Ouais. Bon.
Gary Frank, dépêche-toi, merde.
Peut-être qu'on aura plus d'informations là-dessus aussi à la San Diego
De toute
Comic-Con,
façon,
à
apparemment,
laquelle
c'est.
nous nous rendrons, bien entendu.
Oui, bien sûr. Apparemment, c'est toujours prévu pour 2012, hein, donc on verra bien. Mais ouais, bon, le Legion Secret Origin, qui devrait être donc les origines, façon DC New.
Ah, c'est prévu en 2012 qu'on aille à la San Diego Comic-Con.
Non, le Batman
Non, non,
Earth
je plaisante,
One.
oui, non, mais je.
Mais oui, peut-être. Je ne sais pas.
Bon, Legion Secret Origin, ton a priori, ton avis.
Moi, je dis pourquoi pas, enfin, en même temps, voir la nouvelle origine encore de la Légion façon nouvel univers. Et est-ce que Superboy sera présent ou pas? On verra bien. Peut-être des indices aussi là-dedans sur le passé, entre guillemets, de Superman. Enfin, le nouveau passé de Superman. Ça paraît vraiment bizarre dit comme ça.
Oui, mais c'est bizarre et c'est bien en même temps. Voilà.
J'allais
Dernier
dire.
titre d'annoncé pour octobre, si je ne me trompe pas, My Greatest Adventure par Aaron Lopresti, Kevin McGeer, Matt Kint, alors je ne connais pas, et Scott Collins. Donc ce serait des numéros de 40 pages, donc pour 3,99$ forcément, puisque c'est un peu plus épais. Et on trouverait des personnages comme Garbage Man, Tanga et Robotman. Alors, des personnages que je ne connais pas du tout.
Bah Garbage Man qu'on a pu voir apparaître récemment dans Strange Adventures, qui je pense, My Greatest Adventure, sera la continuation un petit peu de ce type-là. Hein. C'était une mini-série en 6, on avait une histoire sur Lobo, une histoire sur Garbage Man et deux autres histoires sur des personnages, je ne me rappelle plus les noms. Je pense que ça va être la même chose. Ça va rejoindre la liste des anthologies, hein, comme on a Western Tales avec Jonah Hex, puis Men at War, enfin voilà, les titres à 40 pages qui font 3,99$. Ce sera le quatrième ou cinquième, je ne sais plus. Ouais, c'est bien, l'info pour tous les goûts.
Ouais, non mais carrément, carrément. Et mais c'est tout. Ça
Mais
clôture,
ouais,
je crois.
ben disons qu'on ne pourra pas ne pas terminer en parlant de cette grosse bombe qui a été révélée cette semaine par rapport à l'identité du nouveau Green Lantern.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Ah oui, donc
Mais je croyais que tu allais en parler au fait tout à l'heure, du coup.
oui, mais de toute façon, ça fait partie des news. Enfin, je veux dire, voilà, c'est voilà le nouveau Green Lantern, en tout cas. C'est ce qu'on nous annonce comme ça. Il y a sûrement autre chose derrière. Ça peut pas être que ça. Serait Sinestro.
Oh oh
Alors, où est Hal? Pourquoi? Comment? Bah, tout ça bientôt, hein, en septembre, je pense.
Est-ce qu'on a la réponse, toi qui as lu le dernier Green Lantern? Est-ce qu'on a la réponse dans le dernier numéro?
Eh bien, j'ai envie de dire oui.
Ah bon, bah voilà, alors donc.
Mais, enfin non, on n'a pas la réponse. On a les événements qui nous amènent à ça. Mais
D'accord.
je n'en dirai pas plus. De toute façon, on en reparle tout à l'heure, mais de toute façon, je ne spoilerai pas non plus. Voilà, ben là, c'est vraiment tout, hein, je crois.
Oui, non, mais on va passer au gros morceau.
Ah, si, il y a quand même un petit truc que je viens d'y repenser. La semaine prochaine sortira un comic teaser de chez DC qui montrera les premières planches de Justice League numéro 1. Et puis qui
Ah
montrera
oui.
aussi les 52 couvertures des nouveaux titres, plus des sketchs inédits, etc.
Et puis
Donc,
c'est
un
gratuit.
numéro à surveiller, je pense.
Oui, puis c'est gratuit. Donc,
Oui,
comme tu dis,
bah oui.
donc allez dans vos comic shops, si en France, on y a droit.
Non, mais un numéro, je pense à ne pas rater pour qui s'intéresse à ce Dissigno.
Ouais, exactement. Et bah rien. Voilà, très bien.
Cette fois-ci, c'est promis, plus de news oubliées, et on va pouvoir se lancer sur la double review de la semaine.
Ah, qu'est-ce que c'est donc la double review de la semaine? Attention, aux surprises. Captain America numéro 1.
Bah, surprise, oui, peut-être que les gens n'attendaient pas forcément à ce qu'on parle de Captain America numéro 1. Enfin, ils attendaient peut-être qu'on parle d'autre chose. En tout cas, ça a été notre choix parce qu'on avait aussi en face X-Men Schism numéro 1. Mais on a préféré faire Cap, tout
Oui,
simplement.
voilà. Est-ce que c'est un choix malheureux ou un choix concluant? Brubaker au scénario.
Steve McNiven au dessin, Marc Morales à l'ancrage.
Voilà.
Veux-tu faire
Alors.
le pitch?
Oui, si tu veux, allez, c'est parti. Donc, Captain America, enfin Steve Rogers plutôt d'ailleurs, devrais-je dire, Dum-Dum Dugan, Nick Fury et Sharon Carter assistent à l'enterrement, eh bien, de la tante de Sharon Carter. Alors, je ne me rappelle plus de son prénom.
Alors,
Peggy? Tante Peggy?
Peggy, mais elle s'appelle Margaret.
D'accord, très bien. Bah, alors voilà. Bon, on va l'appeler Tante Peggy quand même. C'est plus affectueux.
Quelle cochonne.
Enterrement qui a lieu au Père Lachaise, et comme
Oui, pas bien
d'habitude
malin.
avec Ed Brubaker, il nous montre qu'il adore la ville de Paris. C'est un truc que j'ai souvent remarqué chez Brubaker quand il scénarise Captain America. À chaque fois, il peut pas s'empêcher de dire que Paris, c'est vachement bien comme ville, donc bon voilà.
Bah, de toute façon, venant de la Seconde Guerre mondiale qui s'est battue en Europe et qui a essayé de libérer Paris, c'est normal qu'on le voit souvent et
Ouais, mais enfin, rappelle-toi le Captain America version Ultimate de Mark Millar, c'était autre chose. Donc voilà.
Oui, mais c'était version Mark Millar.
Ouais, voilà, c'est pour ça. En tout
Voilà.
cas, bon, bah, voilà. Brubaker aime Paris, il le fait savoir dans ses comics, tant mieux.
Et d'ailleurs, une représentation de Paris,
Ah, c'est joli.
pas ridicule, pas
Oui.
façon émeute où ça n'a pas cessé depuis 2005.
Oui, voilà, oui, c'est vrai. On a vu ça aussi récemment.
Allez, hein, on va se permettre une petite critique, un petit défaut. On voit une plaque minéralogique. Alors, je sais pas où il a vu les plaques minéralogiques, mais elles sont pas comme ça en France.
Alors, il y a des plaques minéralogiques, j'ai
Oui,
pas remarqué. Sur les
quand on
bagnoles?
voit, ouais, quand on voit le cap dans la rue, on voit des plaques minéralogiques, et donc ce ne sont pas des plaques françaises. Hein. C'est vraiment pour trouver vraiment un petit défaut.
En même temps, est-ce lui qui a enfin, qui a décidé que ce serait dessiné comme ça?
Ah bah c'est McNiven. McNiven a mal fait son boulot, c'est tout.
Voilà. Comme d'habitude.
Il a pas fait assez de recherches. Non, non, bon, c'est franchement pinaillé pour un détail. Hein.
Oui,
C'est
non,
vraiment
non,
pour
mais
dire que.
il y a de très beaux paysages.
Non, mais ça fait plaisir de voir des représentations françaises qui ne sont pas des représentations des années 50 avec des deux chevaux partout, ou des représentations d'émeutes, quoi. Moi, on a vraiment l'impression que c'est une vraie ville, bah, c'est vraiment chez nous, quoi.
Bon, en dehors d'une visite de Paris par Steve McNiven, nous avons quand même un scénario qui continue. Donc, ils assistent à cet enterrement et eh bien un mystérieux ennemi les attaque, plutôt essaye de dégommer Dum-Dum Duggan. Donc Steve Rogers intervient, part à sa poursuite, et là se rend compte que cet étrange personnage serait quelqu'un qu'il a connu en 1944, si je ne m'abuse.
Tout part de cette mission en 44.
Voilà. Et donc nous avons le droit à un flashback, bien sûr, qui nous présente ce personnage qui est inséré dans la continuité, alors que à la base je pense qu'il n'existait pas.
Un certain codename Bravo.
Voilà. Bon.
Et on nous parle aussi d'un autre personnage qui y serait lié.
Oui, tout à fait. Et bah du coup commence une enquête hein, de Steve Rogers, de Sharon Carter, Nick Fury et tout le tout team. Et bah à partir de là, ils vont se rendre compte que ils sont en train de marcher sur des œufs et que se cache derrière ce mystérieux retour peut-être une plus grande menace. Voilà, on va pas vraiment en dire plus hein, sur le scénario.
Bah, y a cette histoire de petit gamin qui est dans le coma,
Oui.
sûrement dû à cette mission,
Tout à fait.
qui s'est réveillé, et bah, chose assez intéressante, parce que là, Brubaker reprend un pan de la continuité que j'ai trouvé assez sympa, notamment qu'il fallait prévenir le Shield absolument dès qu'il se réveillait, ça fait 6 mois qu'il est réveillé, mais que bah, le Shield n'existe plus depuis longtemps, et donc il n'avait personne à prévenir.
Tu n'avais même pas remarqué, tu sais. Quand j'ai lu ça, je te promets, je me suis dit, ah bon, le Shield n'existe plus?
Mais il avait été détruit par Norman Osborn. Et
Oui.
depuis le Hammer, le Shield n'est pas revenu. Steve Rogers, en tant que Captain États-Unis, Captain Monde, enfin Super Soldier là, n'a pas recréé le Shield.
Moi, je pensais justement qu'il gérait le Shield, au fait.
Mais non, il gérait le monde, mais ce n'était pas le Shield.
D'accord. Bon, bien, Brubaker m'a corrigé. Du coup, beaucoup d'action, hein, faut le dire quand même. On ne s'ennuie pas à la lecture de ce numéro. Alors, le seul truc qui m'a déçu quand même, c'est la fin.
Ben
Un
oui.
peu, je me suis dit, bon, allez, si c'est pas Crâne Rouge, voilà.
Ben, disons qu'on nous avait promis un nouvel ennemi. Ouais, mais disons que c'est un nouvel ennemi qui va en chercher d'anciens. Donc
Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a un petit peu déçu.
voilà, on va plus attendre de cet ennemi que l'on connaît que de ce nouvel ennemi qui débarque, quoi. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'il va faire perdre un petit peu de charisme à son personnage, enfin
Exactement, parce
à
que
ce nouveau personnage, disons.
au fait, le tour de force de Brubaker, ça aurait été de créer justement un nouvel ennemi qui soit suffisamment charismatique pour agir seul. Or là, aller chercher un ancien ennemi fait que, voilà, on a l'impression que ce nouveau personnage ne serait pas assez charismatique pour voler de ses propres ailes.
Disons, moi j'ai trouvé l'épisode très sympa, j'ai vraiment envie de lire la suite parce que ça m'a bien intrigué. Maintenant, il y a quand même quelques problèmes qui sont récurrents chez Brubaker, c'est-à-dire qu'on nous fait encore le même coup que Bucky, un personnage qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui était un allié de Captain America et qui revient de façon méchante.
Voilà.
Donc là, c'est Bucky all over again. On nous refait encore le coup de bah, flashback, c'est-à-dire que Captain America n'existe pas sans son passé. Ce qui peut être compréhensible, mais bon, voilà, relancer le titre pour nous refaire encore un peu la même chose. Disons que j'ai l'impression de relire un petit peu le V5, quoi.
Ouais, pareil, j'ai un petit peu cette impression. Est-ce qu'on va pas avoir une espèce de redite de la saga du Winter Soldier par Brubaker?
Et puis, c'est quand même, j'ai l'impression, censé se passer après Fear Itself.
Alors, ça c'est une grande question. quand est-ce que ça se passe exactement?
Ça peut pas être censé se passer avant, puisque c'est pendant Fear Itself que Bucky meurt. Et Bucky était encore Captain America. Là, Steve Rogers est redevenu Cap. Et donc, c'est forcément, il peut pas être en train de courir pour un enterrement et commencer à partir sur d'autres missions pendant Fear Itself. Il y a une plus
Mais
grosse menace.
ce qui est dommage, c'est parce que au fait, ils ont été obligés de sortir par la force des choses ce nouveau titre maintenant, hein, avec le film Captain America qui arrive. Mais du coup, ils ne peuvent pas non plus parler de Bucky et faire des sous-entendus de ce qui s'est passé dans Fear Itself. C'est
Exactement.
un peu ballot.
Moi, ce qui me fait craindre, c'est le reproche qu'on faisait à Fear Itself la dernière fois. C'est-à-dire que le monde n'a pas vraiment changé. On voit que Nick Fury, Denham Dogan, Sharon Carter et Cap sont toujours là. On sait qu'au moins ces quatre-là ne meurent pas. Plus l'ennemi, qu'on voit à la fin, on est sûr que lui non plus ne meurt pas. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que le monde n'a pas vraiment changé. Donc c'est-à-dire que Fear Itself n'aurait quasiment aucune conséquence. Bon, bien sûr, on sait très bien qu'ils peuvent pas trop spoiler à l'avance. Mais
Bah,
voilà, quoi.
on sait très bien aussi que, effectivement, il y a des chances que Fear Itself n'ait aucune conséquence,
Bah
comme
disons que
souvent.
ça conforte dans cette idée-là, quoi. Donc voilà, bon, malgré ces critiques-là, ça reste quand même super sympa. Et puis c'est beau en plus, hein, c'est du Steve McNiven, c'est très joli.
Bon, mais au fait, je pensais justement que le dieu serpent serait maître du monde après Fear Itself. Je suis déçu.
Non, mais je sais pas, peut-être qu'il y aurait pu avoir des villes ravagées ou trucs comme ça. Bon, apparemment, Paris existe toujours, donc n'a pas été ravagé, ou alors ils ont reconstruit sacrément vite.
Ou alors c'est la seule ville qui tient encore debout.
Peut-être.
Mais enfin bon, toujours est-il que, oui, comme tu dis, c'est beau, on s'ennuie pas, c'est quand même une bonne lecture.
Ah ouais, clairement.
On passe un bon moment, on a l'impression même quasiment d'être devant un film, hein, toujours avec Steve McNiven.
L'histoire est vraiment intrigante.
Ouais, malgré tout.
On a envie de savoir le fin mot de l'histoire. À la rigueur, on est presque plus intéressé par ce qui s'est passé en 44 que par le présent.
Oui, bah ça c'est souvent le cas avec Brubaker, parce que tu remarqueras que dans chacun de ses arcs, finalement, ça fait appel à une histoire du passé. C'est l'un de ses travers, et du coup, on est plus intéressé par d'anciennes histoires racontées par tonton Steve Rogers qui fait, tiens, vous savez ce qui s'est passé en 44? Attends, je voulais pas raconter celle-là, bah tiens, bah attends, je vais vous la raconter maintenant. Par ce qui se passe dans le présent.
C'était la même chose avec les Secret Avengers. Rappelle-toi le retour
Si
de
on
ce
peut te dire.
LMD de Nick Fury
Oui.
qui revient, qui date du passé, etc. Enfin,
Oui, mais c'était la seule histoire intrigante, parce que le reste, j'ai envie de te dire, de ce que j'en ai lu en tout cas, intéressant et Secret Avengers, ça va pas ensemble.
ça, c'est fait.
Voilà.
Voilà. Bon, bah, de toute façon, un bail.
Oui, quand même, oui, un bail, parce que bonne lecture, de l'action, on est quand même, on a envie de savoir la suite. Après, faut voir où ça va.
Après, bon, bah, c'est un numéro 1. Si vraiment vous aimez pas d'ici quelques années, peut-être même d'ici quelques mois, sur le marché spéculatif, ça aura augmenté, donc vous pourrez faire un petit profit.
Le marché du spéculoos.
Non, mais si vraiment vous cherchez une raison parce que vous n'êtes pas trop sûr, de toute façon, c'est un numéro 1, ça pourra prendre que de la valeur.
Ouais, enfin en même temps, oui, ça, enfin, vous pourrez quand même le vendre le double du prix que vous l'avez acheté, c'est-à-dire, allez, si c'est combien? 4 euros? Mais alors vous pourrez le vendre 8 euros peut-être.
C'est toujours ça de gagner,
Oui,
hein.
ouais.
Si vraiment vous aimez pas, de toute façon, voilà.
Enfin bon, bonne lecture, allez.
Moi, pour
Un
moi, c'est
bail.
un bail. Ouais, c'est clair, c'est un bail. Bon, bah, on va passer à la suite.
Ouais.
Review solo, et puis bah, c'est toi qui commences.
Oui, c'est moi qui commence avec autre chose, puisqu'on passe chez DC avec le Batman Detective Comics. Oui, d'ailleurs, ils ont appelé ça Batman Detective Comics. Je sais pas depuis combien de temps. Mais peut-être pour dire que Batman est de retour dans les pages de Detective. En tout cas, perdu pour cet épisode, puisque c'est un épisode, comme souvent récemment, centré sur le commissaire Gordon. Au scénario, on retrouve Scott Snyder, bien sûr.
L'excellent Scott Snyder.
Le très bon Scott Snyder, star montante des scénaristes comics en ce moment. Et Francesco Francavilla au dessin, donc une ambiance très très sombre. Alors on reprend cette intrigue dont on avait parlé il y a quelques temps dans Comics Weekly, puisqu'on avait fait la review d'un numéro justement de Detective Comics qui précédait celui-là et qui était vraiment sur la même intrigue. Donc on retrouve le commissaire Gordon qui se pose des questions sur son fameux fils. Très bizarre. Et bah, en enquêtant un petit peu sur son fils, il trouve une espèce de médicament et il va voir Barbara Gordon pour au fait qu'elle l'essaye sur elle, ce médicament. Parce que voilà quoi, il veut savoir si ses doutes sont, sont avérées.
C'est bien parce que s'il y a des effets secondaires, remarque,
eh ouais,
elle est déjà atteinte. Elle est déjà
justement,
atteinte après tout, c'est pas grave.
Elle est surprise, elle est surprise, elle fait non mais attends, justement, qu'est-ce que ça va me faire, etc.
J'ai déjà perdu mes jambes, c'est pas grave si je perds la vue. Hein.
Non, non, mais il y a toute une explication là-dessus et finalement ça se tient. Donc je vous laisse découvrir le pourquoi du comment. Bon voilà, il y a cette intrigue-là. Alors, que vont-ils découvrir, justement, sur le fils Gordon?
Et, j'ai cru que t'allais dire autre chose.
Quoi? Et il y a, une autre intrigue, au fait, sur le Joker, façon Hannibal Lecter, ou, ouais, enfin vraiment la Hannibal Lecter, puisqu'il a même le masque qui va bien, qui essaye de s'échapper d'Arkham, pour ne pas changer. Alors, va-t-il y parvenir? Oh, suspense.
Et puis comment, surtout
c'est et comme, surtout comment, ça, oui, au fait, c'est surtout ça. On doute bien qu'il va y parvenir. La question, c'est de savoir comment.
Bah, c'est intéressant parce que c'est pas tout le temps qu'on le voit s'échapper. Généralement, on nous dit il s'est échappé, encore une fois. Là, on voit l'action. Bah, je sais pas, j'ai pas lu le truc, mais moi, déjà, rien que ça, ça me donne envie d'aller voir.
Bah, c'est pas la partie la plus intéressante. Je dirais que la partie, c'est quand même... Enfin, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir... qu'est-ce qu'il en est par rapport au fils Gordon, dont j'ai oublié le prénom, d'ailleurs. Je le dis toujours le fils Gordon, mais je sais plus comment il s'appelle. Qui est assez bizarre. Alors, il y a encore une question de, d'oiseau aussi, hein.
Bah, toujours, ouais.
Oui. Alors, ça, c'est terrible parce que...
C'est flippant.
C'est, oui. Oui, oui. Pourquoi les oiseaux? Il faudra lui poser la question si un jour on le rencontre en convention.
Mais peut-être qu'il est fan, tout simplement, des oiseaux d'Hitchcock.
Peut-être. Peut-être. Mais il y a encore des allusions permanentes.
Aux de toute façon, c'est depuis le début de l'arc. Hein. C'est qu'une grande suite. Et depuis le début, depuis Darby et de Scott Snyder sur le titre, cette histoire continue.
Oui, mais je pense qu'on avait repéré d'autres comics par Scott Snyder qui, où il était question de, d'oiseaux aussi.
Oui, il y en avait aussi dans American Vampire.
Voilà.
Mais pas autant, disons. Là, c'est vraiment très marqué dans Detective Comics.
Bon, en tout cas, l'enquête suit son cours, hein, j'allais dire.
Moi, je lui propose d'écrire Hawk and Dove.
Ah bah, peut-être que c'est son grand rêve d'enfance.
Après tout, là, il sera dans son milieu.
Oui, puis ça fera un bon scénariste pour Rob Liefeld.
Oh, quel talent gâché, malheureusement. Voilà.
Donc voilà, donc bon bah, c'est tout ce que je peux en dire. Hein. Voilà, c'est très intriguant, c'est toujours passionnant. Bon, par contre, voilà, j'ai quand même hâte de... J'ai pas l'impression que ça avance non plus énormément, quoi. Voilà, c'est ça le problème que j'ai eu avec cet épisode, c'est que j'aurais aimé en voir un peu plus.
Le problème, c'est qu'on est au mois de juillet, il reste un mois pour finir l'arc, ou alors ça va continuer dans le reboot, ce qui est quand même franchement très con de faire un numéro 1 qui commencerait par une histoire en cours.
Ah bah là, de toute façon, les choses s'enchaînent à la fin. Bon, j'attends de voir cette conclusion, mais bon, ça reste du bon polar. Batman n'apparaît absolument pas dans ce numéro, précisons-le.
Des fois, c'est pas plus mal, hein, si l'histoire en est mieux servie.
C'est vraiment centré sur Gordon. Et puis le Joker.
D'accord.
C'est un bail, bien évidemment, quand même, puisque c'est du très bon Scott Snyder, donc c'est du très bon comics. Et bah, peut-être que je vais enchaîner sur une review express.
Bah oui, justement, où cette fois-ci, on verra Batman.
Voilà, le Dark Knight numéro 3. Enfin sorti, alors qu'en août devait sortir le numéro 6, mais à mon avis, ça va pas être possible.
On nous avait déjà promis qu'il sortirait le 22 juin.
Voilà, donc encore un titre qui va être rebooté alors que l'arc en cours n'est pas terminé, à mon avis.
Franchement, Finch, il fait chier.
Ben oui, alors donc Finch, scénario, dessin. Alors, niveau dessin, très bien. Niveau scénario, par contre, c'est lent, en plus. C'est très lent.
Attendre 3 mois pour avoir une histoire qui avance pas, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi.
Voilà, c'est ça le problème. Les intrigues, soit n'avancent pas, soit trouvent des conclusions vraiment qui font flop, quoi. Pas top les conclusions que prennent les intrigues. Et puis la direction que ça prend globalement, tournée vers les monstres, le côté un petit peu mystique, bon, me plaît pas des masses. Alors le premier numéro était vachement intriguant, le second beaucoup moins, et le troisième encore moins, donc ça baisse de plus en plus. Là pour moi ce sera juste un check-it, ça passe dans le check-it, parce que mis à part les dessins qui sont toujours très bien, c'est pas top top, quoi.
Bah, tu sais ce que dommage. Ça me rappelle? Ça me rappelle All-Star Batman and Robin.
Moi, ça me rappelle surtout Tourment, donc l'arc de McFarlane sur Spider-Man, où à l'époque, il était au scénario et dessin, c'était la grosse star, et voilà, il nous avait pondu un truc avec...
Ouais, le truc avec le Wendigo et puis Wolverine
Non, juste avant, avec le lézard, avec...
Ah, ouais.
avec un espèce de Kraven ressuscité, mais c'était aussi un espèce de truc mystique. Il aimait bien utiliser des monstres, en fait. Et Finch a ce même travers, en fait. Il adore utiliser des monstres comme le démon, hein, enfin Demon, je sais plus quoi. Etrigan, voilà.
Etrigan, ouais.
Etrigan, puisque Demon, c'est dans Marvel,
Bah, il
qui
s'appelle The Demon, en fait,
Oui,
le
oui.
personnage.
Voilà. Donc Etrigan et Ragman.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Enfin, moi, quand je te parlais de la comparaison avec All-Star Batman and Robin, c'est-à-dire des super dessins, ben voilà, quelqu'un, bon, là, c'est David Finch qui fait et scénario et dessin, mais je veux dire, on avait Frank Miller, Jim Lee pour ben, All-Star Batman and Robin. Enfin, déjà, la série, ça fera peut-être gueuler certains, mais c'était une grosse merde. Je crois que...
C'est vrai que c'était vraiment pas top.
En plus, il y a eu des retards phénoménaux sur cette série.
La série est
Finalement,
inachevée.
la série est totalement inachevée et j'ai l'impression que Dark Knight suit le même chemin. C'est pour ça que je faisais cette comparaison, en fait.
Ouais.
Et
Bah.
qui en plus baisse en qualité, apparemment, enfin selon toi, enfin, moi je l'ai pas lu, donc je pourrais pas me prononcer. Mais enfin voilà, pour moi, ça suit le même chemin. Et je pense que c'est une série que je vais pas lire finalement, parce que même si numéro 1 était très bien, moi devoir attendre 3 mois pour me taper une merde qui avance pas, je suis désolé, ça me fait pas plaisir, quoi. Donc je préfère, quitte à bouder un peu mon plaisir et de pas avoir du joli David Finch, je préfère m'en passer.
Ou bien peut
J'attendrai le reboot, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est virer David Finch, quoi.
Moi non bah ou bien alors attendre le TPB en espérant que le
Putain.
résultat final
Non mais
soit
qu'il
correct.
fasse des mini et qu'il s'y prenne un an à l'avance ou qu'il fasse des one shot quoi, mais qu'il fasse pas une série régulière, le
Oui.
mec est pas capable de tenir un délai.
C'est
Faut
ça.
arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, il nous avait clair, enfin ça avait clairement été annoncé. Oui, j'ai pris quelqu'un pour le numéro 4 et 5, comme ça ils sortiront à l'heure. Attends, je suis désolé, on est au numéro 3. Même pas sûr que le 4 sorte avant le reboot. C'est du foutage de gueule. L'arc sera jamais terminé. On va recommencer au numéro 1 en plein milieu d'un arc, ou alors on va zapper la fin. Enfin, y a rien de consistant là-dedans, c'est ridicule.
Et puis
C'était le coup de gueule de la semaine.
on se demande même s'il n'a pas raccourci volontairement parce que ça prend vraiment des raccourcis, voilà, le scénario, j'ai l'impression.
Et voilà,
Enfin
quand il a,
bref.
le mec dit qu'il a des problèmes personnels, etc. Ça peut arriver à tout le monde, ça
Ah bah oui, on sait
c'est
quelque
tout à
chose
fait
aujourd'hui.
normal, je veux dire. Non, je veux dire, c'est pas une tare d'avoir des problèmes personnels. Ça arrive et bah, c'est dommage pour lui. J'espère qu'il va s'en sortir. Mais à ce moment-là, on passe le relais à quelqu'un d'autre parce que il y a des lecteurs à contenter. Il y a un contrat qui a été signé. Je pense qu'il faut. Ben voilà, si le mec veut être persona non grata chez DC, il est en train de suivre le bon chemin, je pense.
Eh ben, il peut se gratter.
Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Moi, j'apprécie pas ces retards. Un retard d'un mois, bon, une fois de temps en temps, c'est chiant, mais ça peut arriver. Là, c'est quand même 3 mois par épisode de retard, quoi.
Bon, eh ben, ne nous mets pas en retard, Steve, hein, parce que la News Express, finalement, la Review
Oui,
Express se
bah oui, non
transforme
mais
en coup
bon.
de gueule 2-3 heures.
Allez,
Mais bon, c'est pas grave, c'est intéressant.
on va passer à la suite. Du coup, on va changer de nouveau d'univers, on va repasser chez Marvel avec le From the Marvel Vault Defenders, avec Kurt Busiek au scénario, sur une idée de Fabian Nicieza, Marc Dagley au dessin, Andrew Nessy à l'ancrage. Alors, c'est l'incarnation des Defenders de 1999, la série par Busiek et Larsen. Avec Hulk, Silver Surfer, Doctor Strange et Namor dans les rôles principaux, mais on avait aussi Valkyrie, on avait comment s'appelle-t-il? Hawk, je ne sais plus. C'était pas Darkhawk, c'est l'autre justement.
Alors là, par contre,
Bref, bref.
oui,
Tu vois
je
peut-être
sais
le
plus.
personnage, mais enfin.
Oui.
Voilà. Bon. Dans cette histoire, il y a donc que les quatre principaux, Hulk, le Silver Surfer, Doctor Strange et Namor. Ils ne sont pas eux-mêmes, hein, du tout. Ils ont des personnalités totalement différentes, ils sont des personnages différents, mais dans le corps de ces héros-là. Et ils vont essayer de comprendre pourquoi, déjà s'habituer à leur nouveau corps, puisque bah, ce sont des humains lambda apparemment qui ont récupéré les corps des
De
héros
Hulk,
classiques.
surfeur, etc., oui.
Exactement, donc par exemple on a la personne qui est dans le corps du surfeur, qui quand il se rend compte qu'il est le surfeur, bah, finalement laisse tomber ses potes pour partir en vadrouille sur le surf et voler à grande vitesse et
Partir en
profiter des
Australie.
pouvoirs, quoi. On a le mec qui est dans le corps du Docteur Strange, qui finalement va essayer de voir quand le Docteur Strange part dans des mondes bizarres en méditation, etc. Et voilà, se faire plaisir à expérimenter ce genre de choses.
D'accord, donc ils sont pas tellement flippés quand même de se rendre compte de leur
Un petit
nouvelle.
peu, mais du coup ils profitent puisque bah, ils sont dans les corps de personnages puissants, ils en profitent un petit peu. Mais pas pour faire le mal, hein, juste pour leur propre plaisir, c'est-à-dire expérimenter des choses intéressantes.
Oui, en mieux que sur Play 3 ou Xbox 360.
Voilà. Puis bon, on se rend compte que le monde autour d'eux est bizarre aussi, puisque par exemple Hulk rencontre l'Abomination, qui finalement vient lui proposer de faire des châteaux de sable sur la plage.
C'est quoi ce délire?
Ils sont rejoints par
Alors, attends,
Juggernaut, Absorbing
laisse-moi
Man,
faire des
etc.
guesses. Laisse-moi faire des wild guesses. Est-ce que c'est un coup de mojo?
Non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Bon, je ne veux pas vous spoiler la fin de l'histoire. Les choses reviendront à peu près à la normale à la fin,
Ah
mais
oh bah oui.
voilà. Le plus intéressant dans ce numéro, c'est quand même la postface écrite par Kurt Busiek, qui raconte l'histoire derrière l'histoire. Là, c'est très drôle. Bon, je vais pas tout vous raconter puisque vous ayez quand même la surprise de lire cette postface, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient prévu, au cas où lui et Rick Larsen à l'époque auraient eu des empêchements, auraient eu un mois de retard, puisqu'on parlait de retard juste avant, en plus c'est là que c'est très intéressant, ils avaient préparé, enfin Nicisa, puisque c'est lui qui avait écrit, c'est pour ça que c'est sur une idée de Nicisa, avait écrit quelque chose, préparé un épisode fill-in, dessiné par Mark Bagley, au cas où Busiek ou Larsen n'auraient pas pu faire le numéro du mois, parce qu'ils étaient toujours short au niveau des délais.
On était en quelle année, tu l'avais dit?
99.
99. Ah oui, donc c'est pas si vieux que ça quand même.
Voilà, donc là, ce sont des gens prévoyants. Ils avaient au moins un numéro fill-in au cas où. Et donc, ils n'ont jamais eu besoin d'utiliser ce numéro fill-in. Et Marvel l'a ressorti des cartons pour, bah, justement, From the Marvel Vault. Chose très intéressante. Le petit problème qui s'est glissé, c'est que ils avaient juste les planches de dessin de Bagley, sans les dialogues, sans rien. Donc, Busiek s'est pas arrêté à ça. Il a été voir Decisor en disant, bah écoute, t'as encore le plot. Voilà, tu me le files et puis je vais faire quelque chose. Le problème, c'est que Nicisa avait tout perdu dans un crash de disque dur. Et impossible de se rappeler de ce qu'il avait écrit comme plot il y a plus de 10 ans de cela. Mark Bagley, pareil. Plus personne n'avait de copie. Donc Busiek a été obligé de regarder les dessins et essayer d'imaginer l'histoire. Un petit peu la façon Stan Lee des années 60.
Oui, d'accord.
Donc ce qui nous donne une histoire quand même relativement tarée. Et de son aveu à lui, Nicisa lui aurait dit que il s'est rappelé plus du tout, même après avoir lu l'histoire qu'a fait Kurt avec les planches, il se rappelle plus du tout ce qui était écrit, mais en tout cas, il est certain que c'est encore plus délirant que ce qu'il avait fait et qu'il adorait cette histoire. Voilà.
D'accord, mais c'est très drôle. Non, mais en fait, on s'imagine pas que les gens, c'est vrai qu'ils écrivent tellement de scénarios qu'on n'imagine pas qu'ils peuvent oublier, au fait, carrément, qu'est-ce qu'ils avaient prévu à l'époque.
Enfin, surtout Nicisa, qui est un mec super prolifique en plus.
Ouais.
Bon, alors, l'épisode est franchement pas très bon, hein. Mais c'est vraiment sympa, et puis cette histoire derrière l'histoire est vraiment très drôle, donc ce sera un check-it, quoi. Bon,
D'accord.
c'est du Mark Bagley, c'est du Kurt Busiek, bon,
Ouais, et puis en
ça reste
plus,
sympa, quoi.
c'est quand même une série atypique, comme un What If, voilà quoi, c'est un From the Vault, ça ne plaira pas à tous les publics et à tous les
Oui,
lecteurs.
voilà, bon, là, ça peut être dans la continuité, comme ça peut être en dehors, de toute façon, ça n'a aucune incidence. Donc un petit check-it.
Un petit check-in, très bien.
Je vais en profiter pour faire vite fait une petite review express de The Red Wing. Je vais pas trop m'attarder dessus, puisque Nono fera un unspoken très prochainement. Donc je vais pas lui gâcher le plaisir de vous expliquer, de bien faire une review de l'histoire. La nouvelle série, enfin mini-série chez Image de Jonathan Hickman, donc qui est une histoire de voyage dans le temps. Une espèce de guerre à travers le temps, des gens du 23e siècle qui vont essayer d'empêcher des sortes d'aliens de détruire le 21e siècle. Mais le temps n'est pas linéaire et donc les modifications qu'ils font au 21e siècle ne se répercutent pas forcément sur le 23e siècle. C'est là tout l'enjeu. Il y a d'autres choses qui se passent aussi. C'est franchement assez intriguant. Ça donne vraiment envie de lire la suite. Maintenant, de là dire que c'est un bail, je suis pas certain. Ouais, disons que c'est un check-it à tendance bail, quoi. Faut voir où ça va. C'est une histoire en quatre. Nono fera une review plus complète. Mais moi, j'ai relativement bien aimé. C'est du bon Jonathan Hickman bien taré, quoi.
D'accord. Bon, bah, je le lirai probablement d'ailleurs. Je me le prendrai sur.
D'ailleurs, la transition est toute trouvée, hein, puisque ta prochaine review solo, c'est...
FF
Eh oui, t'as
2
vu,
d'un
tout
certain
calculé.
Jonathan Hickman.
Tout est calculé.
Mais oui, c'est formidable. Mais on fait des réunions de 3 heures, des brainstorming et tout, pour que à la minute près, ce soit ça.
Pour une émission de 45 minutes, enfin là, qui fera plus de 45, je pense, mais...
Ouais. On va voir, on va voir. On va aller très vite de toute façon sur celui-là, puisque Jonathan Hickman au scénario, Greg Tokini au dessin. Alors attention, Greg Tokini au dessin. Greg Tokini qu'on voit pas très très souvent. Mais bon, je l'avais vu sur un comics récemment qui m'avait pas plu. Là, c'est un peu mieux sur cet épisode
Bah,
d'FF.
c'est la valse des dessinateurs chez FF, hein, puisque le mois dernier c'était Barry Kitson. Daily Gulsham ne doit pas tenir les délais, je pense.
Voilà, certainement. Et donc, bon, Greg Tokini, là, s'en sort plutôt bien. Je dois dire que c'était pas trop ma came, donc j'aurais préféré nettement un Del Guilcham, mais bon, tant pis. Niveau scénario, on
D'ailleurs,
est...
était-ce Daily Gulsham sur le reboot, enfin sur le FF? Je commence à avoir un doute maintenant.
Bah, c'était pas... Attends,
Je me demande si c'était pas McNiven, justement.
ah non, ah si?
Non. Ah, je sais plus. Putain,
Fin
hey, on...
pas Finch...
Non, non, pas Finch. Bon, c'est pas grave. Les trous de mémoire, hein, c'est les aléas du direct, comme
Oui,
d'habitude.
oui. Les trous noirs,
Et
c'est
puis,
les
une
aléas
fois
des
qu'on
cartes
aura coupé
plastiques.
l'enregistrement, on va faire « Ah mais oui, mais c'était ça !»
Enfin, qu'importe, j'aurais préféré, de toute façon, c'est Legal Sham, ce n'est pas faux pour autant, plutôt que Greg Tokini. Mais précisons tout de suite que cet épisode ne contient absolument aucun des quatre fantastiques, même des FF en général. C'est juste un épisode qui t'explique le pourquoi, du comment, de ce que tu vois sur la couverture. Et encore, je dirais que je suis assez sceptique de cette explication. Donc, la couverture, on est obligé de le dire, hein. De toute façon, c'est pas spoiler,
De
c'est
toute façon,
sur Yahoo.
elle sera sur l'article, donc voilà.
Voilà. Black Bolt, donc Flèche Noire en français, mais Black Bolt, puisqu'on est dans Comics Weekly, semble être de retour. Pourquoi? Comment?
Dans une
Explique.
couverture atroce où il a des seins, d'ailleurs.
Ouais. La couverture est pas top. Bon, bah voilà, l'explication qui est donnée par Jonathan Hickman est assez tirée par les
Capillotracté.
cheveux, tu disais?
Capillotracté.
Ben oui, ben c'est ça, ouais. Capillotracté, tiré par les cheveux. Je suis pas fanat de cette explication. Je sais pas si y a encore des choses qui nous dit pas là qu'on va découvrir par la suite. Bon, on voit surtout un gros gros flashback, au fait, sur les cris. Voilà. Et on découvre quelque chose qu'on ne savait pas auparavant, comme souvent d'ailleurs dans les épisodes de Jonathan Hickman, c'est-à-dire qu'il reconstruit vraiment tout l'univers autour des Quatre Fantastiques, à un tel point que bah, faut pas louper un épisode, quoi, sinon on comprend plus rien.
D'accord. Se sert-il beaucoup de ce qu'avaient fait Abnett et Lanning sur le Galaxyverse?
Bof, au fait, il reprend l'histoire tellement, tellement loin dans le passé, que y a peu de choses finalement. Qu'ont touché Abnett et Lanning. On retrouve Conan, non, pas Conan, Ronan. Ronan l'accusateur. Mais à part ça, voilà, pas beaucoup d'éléments sur lesquels on bossait Abnett et Lanning, si ce n'est que bon bah voilà, on retrouve la tribu des Kree et on en apprend de belles sur eux, encore une fois. Bon, voilà. Et il semblerait donc qu'effectivement, il soit de retour. On verra ce que ça donne dans le prochain épisode. Prochain épisode qui encore serait, enfin semble être selon la couverture encore une fois sur Black Bolt, donc j'espère qu'on verra enfin les FF à nouveau, que ce soit pas encore un épisode explicatif.
Surtout si le run doit s'arrêter au numéro 11 pour revenir à Fantastic Four 600 après quoi.
Voilà. Donc bon, un petit peu en demi-teinte, je vais être obligé quasiment de dire que c'est un bail, parce que si je disais juste check it, il va vous manquer des éléments. Et comme je disais tout à l'heure, bah, louper un épisode en ce moment dans les FF, c'est vraiment compliqué ensuite pour reprendre le train.
D'accord. Tu avais une petite review express aussi encore, je crois.
Oui, X-Men Schisme numéro 1 qu'on aurait pu faire en double review. Très vite, au scénario Jason Aaron, bon, jusque-là, pourquoi pas, au dessin. Carlos Pacheco en petite forme. Anatomiquement parlant, j'ai trouvé justement que Wolverine et surtout Cyclope avaient des bustes énormes et des jambes toutes petites sur un certain moment.
Ça vient peut-être de son encreur.
Mais alors, pas certain parce que là, c'est vraiment dans les traits, enfin dans les coups de crayon, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Bon. En tout cas, même niveau décor, il y a certains trucs un peu vides. Bon, en même temps, c'est un numéro plus long que les autres, hein. Il fait, je crois, une quarantaine de pages,
Mais
si je dis pas de bêtises.
le truc, c'est que ça dépend s'il a fait juste des roughs ou s'il a vraiment fait vraiment des gros traits juste pour guider l'ancrage, quoi. Est-ce que l'ancreur a eu une grosse liberté parce qu'il n'y avait quasiment pas de traits? Ou est-ce que c'était vraiment tout fait? Est-ce que c'est vraiment de la faute de Pacheco? Ça, malheureusement, c'est difficile à savoir.
Là, ça m'a fait penser à du John Cassaday. Et j'ai l'impression qu'il a voulu donner un petit peu ce style-là à son dessin. Et Pacheco expérimente, au fait, ces derniers temps. Il expérimente, il change de style. Et bah là, je trouve pas ça tip-top, quoi. Bon, certains aiment, mais moi, là, j'ai pas été particulièrement impressionné. Par contre, alors, donc, niveau scénario, bah, on n'apprend pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà vu sur les pages preview. C'est-à-dire que Wolverine et Cyclope se rendent à une conférence sur les mutants. Ils sont attaqués par un ex mutant, enfin un mutant quoi, qui est méchant, un méchant mutant, voilà, qui est de
Ok.
retour. Des sentinelles débarquent, classique, et on fait surtout la connaissance avec un nouveau gros ennemi, qui, à mon avis, va ressurgir assez régulièrement maintenant dans l'univers des X-Men, qui est, je dirais, pour pas trop spoiler, est aussi chiant, sinon plus, que Damian Wayne.
D'accord.
Donc, voilà, c'est assez terrible. Je le déteste, déjà. Et, voilà, le scénario est pas terrible, terrible, quoi. C'est intriguant, mais sans plus, quoi. Pour un premier numéro, il prend vraiment son temps.
Ok. Alors, ta note?
Check it, je dirais. Voilà. Schisme, honnêtement, pour le moment, m'emballe pas plus que ça.
On va finir l'épisode de cette semaine par la fin de l'event qu'on avait suivi, War of the Green Lanterns, avec le Green Lantern numéro 67, Geoff Johns au scénario, Doug Monkey au dessin, Christian Lamy, Christian Payne, Tom Nguyen et Heroine, j'ai oublié son prénom, à l'ancrage. Mm-hmm. Donc, tout de suite, je vais le dire vraiment ma réaction à la lecture de ce truc. Je savais ce qui allait arriver, je le savais. Mais putain, j'ai quand même été super surpris et je suis resté mais sur le cul en lisant ce truc.
D'accord. Et qu'est-ce que tu pensais savoir ? Alors, est-ce que tu peux le dire ou pas ?
Sachant qui était le nouveau Green Lantern, etc.,
ouais.
Que Hal avait disparu, en tout cas d'après les sollicitations qu'on voit, d'après les éléments qu'on a dans les news, je le savais. Eh bien, pourtant, j'ai quand même été surpris. C'est incroyable. Alors, j'ai lu beaucoup de reviews sur le net qui ont détesté ce comic, mais qui ont craché dessus comme pas possible. Je les comprends. Il y a quand même des choses qui sont vraiment très limites et vraiment tirées par les cheveux pour la fin de cet event. Mais moi, je trouve que ça marche. Après tout, je veux dire, des mecs avec des anneaux qui volent dans l'espace, quoi. Des extraterrestres partout. On n'est pas à un truc un peu bizarre près.
Ouais.
Grosso modo, c'est le combat final contre Krona. Pour arriver à le vaincre, puisqu'apparemment les Green Lanterns ne suffisent pas, eh bien, Hal va récupérer le livre noir d'Oa, et vu qu'il y a des pages blanches, et vu que ce qu'on voit sur les pages qui sont écrites sont ni plus ni moins que les cauchemars dans lesquels sont enfermées les différentes couleurs de lanterne, c'est des espèces de chefs comme Sinestro, comme la meuf de la tribu Indigo, comme Atrocitus, etc., ceux qui sont toujours enfermés dans ce livre, il va demander à Kyle de dessiner quelque chose pour leur permettre de sortir.
D'accord.
Voilà, grosso modo, une des grosses explications tirées par les cheveux, en tout cas pour beaucoup de lecteurs. Moi, je trouve que c'est pas plus tiré par les cheveux que le reste.
Moi, ça me fait penser quand même à l'explication avec Superboy Prime qui tape dans un mur. Quoi. C'est le genre d'explication que peut sortir Geoff Johns et je comprends que certains lecteurs se disent « Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
Ce que je veux dire, c'est que vu que sur les pages, on voit leurs cauchemars, on voit ce dans quoi ils sont enfermés, après tout, le fait de dessiner sur une page blanche plus loin leur façon de sortir, pourquoi ça ne se produirait pas ? Enfin, moi, ça me paraît logique.
Oui, non, mais même, il y a une espèce de poésie là-dedans. C'est comme casser le quatrième mur, briser le quatrième mur, comme on dit. Ben là, c'est tout aussi une espèce de réflexion sur, comment dire, le monde de l'imaginaire, la création. La création, voilà.
Ouais. Surtout que, il demande à Kyle, bien sûr, qui est le peintre, de faire le truc, quoi.
Oui.
Bon, voilà, ils sortent, ils s'apprêtent à récupérer leur bague, mais quelque chose les en empêche. À la dernière minute, je vais éviter d'aller plus loin dans l'histoire parce que vraiment, je voudrais vraiment éviter de spoiler, que vous lisiez le truc vous-même, que vous découvriez ce qui se passe. Je sais que c'est un peu juste comme review, mais ça, c'est qu'un des premiers points sur lesquels les gens gueulent. Il y en a d'autres dans le comic. Faites-vous votre avis. Je veux vraiment pas spoiler parce que ça vient tout juste de sortir, que c'est un événement qui fera date. Pour moi, il faut vraiment le lire soi-même. Moi, j'ai vraiment été soufflé, même si je savais comment ça se passerait. Enfin, comment ça se passait, ce qui allait arriver en tout cas, je savais pas comment ça se passait justement. Le plus surprenant étant peut-être la réaction des gardiens après cette histoire.
D'accord.
Alors déjà, qu'est-ce qui va rester comme gardien ?
Ils se mettent tout nus et ils commencent à danser.
Vous verrez, moi ça m'a donné envie de mettre des tartes quoi.
Voilà. D'accord, donc c'est bien ils se mettent tout nus, ils se mettent à danser.
Une autre petite chose intéressante, Geoff Johns nous dissémine encore quelques petites infos sur la tribu Indigo. Et notamment que les membres de la tribu Indigo, sans leur bague, parlent normalement.
Ah d'accord. Ah à la bonne heure.
Voilà, que c'est donc le pouvoir de leur bague qui leur fait parler cette espèce de langue que l'on ne comprend pas. Ainsi qu'on a le nom, on apprend enfin le nom de cette espèce de représentante de la tribu Indigo, son vrai nom.
D'accord.
Ça dans le comic. Pour moi, c'est un nul travail.
Ah ok, clairement.
Ah c'est vraiment excellent quoi. On est soufflé et j'ai qu'une hâte, c'est voir le reboot de Green Lantern. Voilà. Donc je suis vraiment séduit. C'est peut-être tiré un peu par les cheveux, il y a peut-être des explications qui sont un peu limites, la caractérisation de certains personnages est franchement des fois un petit peu rapide et un petit peu caricatural, mais c'est pas grave, ça fonctionne et même le moyen de défaire Chrona est quand même très léger. Mais bon, c'est pas grave. Très rapidement, le Green Lantern Corps numéro 61 par Tony Bédard avec Daniel HDR au scénario. Au dessin, pardon, et Keith Champagne à l'ancrage. Donc c'est soi-disant un aftermath à ce qui s'est passé dans War of the Green Lanterns. Alors on va dire c'est vite fait, hein. Pareil, dans la sollicitation, on nous dit que on voit les répercussions pour John et pour Kyle. C'est pas le cas. On voit absolument pas Kyle de tout le comic. On ne voit que John Stewart, qui va finalement trouver un Wookie qui avait été engagé par Krona, qui avait envoyé plein de bagues pour recruter un maximum de Green Lantern. Je sais pas si tu te rappelles au tout début.
Tout à fait, ouais.
Et bien là, tous ces rookies rendent leur bague, sauf une, enfin une en tout cas, sur laquelle on va s'attarder, qui était membre de la police et
C'est Rox.
aucun de... Oui.
Rox, c'est Rookie. Ouais,
Oui,
d'accord.
j'avais compris.
Oui, non,
Et du coup, cette fille veut pas rendre cette bague, puisque aucune personne de sa planète n'avait jamais été Green Lantern. Elle est membre de de police, elle a envie de faire partir du score, et John va la guider un petit peu. L'épisode est franchement pas très bon. C'est tout juste un check-it, et encore, c'est même franchement un pass, parce qu'on peut clairement s'en passer. C'est une histoire sur John Stewart qui reste toujours aussi inintéressant.
J'aime bien parce que c'est la conclusion de review qui a le mis le c'est le record de changement en fait de comment dire de notation.
Ouais non, je disais que c'est un check-it, mais en fait non, en réalité c'est vraiment un pass. Non, vraiment. On peut carrément s'en passer de cet épisode, je pense que non, il se passe rien. Vraiment, c'est tout juste une histoire voilà, d'un grand Green Lantern, donc John Stewart qui va aider une rookie. Voilà. Ben, franchement, c'est plat, quoi. C'est plat. Voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. On va finir avec un mail que l'on a reçu. On va essayer de faire vite, étant donné qu'on a déjà bien dépassé sur le temps, un mail de Fabien qui nous dit bonjour à vous, j'espère que vous vous êtes bien remis du Comic-Con et que vous n'êtes pas encore en vacances au soleil avec l'argent faramineux que vous rapportent les podcasts.
Ouh là là, si tu savais, on est parti depuis bien longtemps.
Oui, l'argent faramineux.
Sous les tropiques.
Si seulement. Remis du Comic-Con, bah la fatigue encore un petit peu, mais ça va, on arrive
Oh, quand même, j'ai repris, bon, ça va.
Non, moi, pas, franchement, pas encore, quoi. Avec le taf, je suis encore quand même bien crevé.
D'accord.
Bon. Merci en tout cas de vous dévouer pour la cause. Ah, merci, merci de nous dire merci. Voilà. Une question. Je conserve chez moi avec amour un Batman Judge Dredd par Beasley qui date d'un temps. Auriez-vous un bon TPPVO assez récent sur Judge Dredd à me conseiller ou la série est-elle inintéressante? Ben là, je vais te laisser répondre, Benny, parce que toi, tu suis les Judge Dredd.
Alors,
Enfin, tu suis, en tout cas, tu achètes les
ouais.
albums.
Alors moi, par contre, j'achète pas des trucs très récents. C'est-à-dire que j'achète les Complete Case Files, qui sont en fait des intégrales qui reprennent tout Judge Dredd du début jusqu'à nos jours. Il y en a à peu près 18-19 qui sont sortis en VO. Il va y avoir une version française même à partir de ce mois-ci chez Soleil. De récent, je sais. Qui est sorti. Alors par contre c'est en français, donc ça va pas répondre totalement à ta question, mais il y a la saga Mandroid qui est sortie en français chez Soleil, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça doit être chez Soleil puisque c'est eux qui font Judge Dredd en ce moment, qui est sortie bah ces derniers temps. Et on m'en a donné de bons échos, donc ça doit dater de 2000, enfin début 2000 si je dis pas de bêtises, 2004 peut-être. Donc peut-être que ça pourrait t'intéresser.
Et au niveau qualité, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, des complete case files.
Bah après ça dépend des périodes, ça dépend des auteurs. Matt Wagner en a fait 15 millions d'épisodes de Judge Dredd. Il y a eu Garcenis qui est passé dessus, des auteurs quand même, des grands auteurs de comics, des auteurs
Les
assez connus.
grands auteurs anglais, ouais.
Ouais, mais c'est vraiment du comics à l'anglaise, c'est-à-dire c'est un humour noir, incisif, c'est complètement déjanté. Voilà. Bon, et les grandes sagas commencent vraiment à partir de la seconde intégrale. Voilà. Après ça dépend. Franchement, ça dépend des années. Il y a des années où il se passe quasiment rien et des années où on a le droit à trois grandes sagas de suite. C'est assez aléatoire, là j'ai pas les trucs en tête, hein. J'ai pas les numéros en tête.
Alors moi, là, je pourrais pas aider puisque, bah, je sais, honte à moi, mais Judge Dredd, c'est un personnage que je ne connais, pour ainsi dire, pas. Je dois avoir lu peut-être une ou deux histoires de Judge Dredd dans toute ma vie. C'est pas quelque chose qui m'attire profondément. Alors, je rate peut-être quelque chose, je rate sûrement même quelque chose, mais voilà, je suis pas. Il y a tellement de choses à lire et c'est pas forcément quelque chose qui
Et puis,
m'attire comme ça.
faut préciser que le format est totalement différent, hein. C'est des histoires qui font 4-5 pages en plus.
Oui, en noir et blanc, en plus, faut le préciser pour ceux qui ne savent pas.
Au début, parce que maintenant, ça fait longtemps, depuis les années 90, que ça n'est plus en noir et blanc.
En tout cas, le début est en noir et blanc. Enfin, c'est pas trop le problème, mais c'est vrai que ça peut rebuter certains.
Ouais. Les premières années, ouais, c'est vrai que c'est en noir et blanc. Mais voilà, c'est toutes les semaines que sort une nouvelle petite histoire en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et voilà.
Il continue le mail en nous demandant ce que devient Beasley. Une courte recherche m'a permis de voir ce qui sortait quelques comics au compte-gouttes. En avez-vous approché? Moi, j'ai regardé sur son wiki ce qui sortait un petit peu. J'ai pas lu grand-chose de Simon Beasley de très récent.
Non, moi non plus.
Bon,
À
je crois
part
qu'une...
peut-être certaines choses sur Judge Dredd, encore une fois.
Un
Mais
des
j'en suis
trucs
pas
les
certain.
plus récents que j'ai dû lire de Beasley, ça doit être un arc qu'il avait fait sur Legends of the Dark Knight. Tu vois, ça date, quoi. Voilà. D'une manière générale, que deviennent les auteurs de comics à succès, cela s'entend? La profession n'est-elle qu'un tremplin vers le cinéma ou les jeux vidéo? Je n'attends aucune réponse exhaustive, bien entendu, et vous remercie pour tout. Alors là, ça va être assez compliqué comme question. Ça, franchement, ça dépend des gens, quoi. On a des gens comme Madureira qui se sont fait totalement oublier pendant très longtemps, qui ont sorti un jeu, là, notamment Darksiders, qui est sorti en début d'année, je crois. Et qui finalement va revenir aux comics puisqu'il va prendre en charge une série X-Men après Schisme justement dans cette fameuse partie Regenesis
Et
comme ils
puis
appellent ça.
Avenging Spider-Man.
Ah oui non je disais X-Men oui c'est ça Avenging Spider-Man je confonds totalement je sais pas pourquoi j'ai sorti X-Men d'ailleurs c'est peut-être parce qu'il avait beaucoup travaillé sur X-Men à l'époque c'est peut-être
Mais
pour
sans
ça
doute, ouais.
non oui
C'est ce qu'ils
c'est
avaient
Spider-Man
propulsé,
ouais.
oui, effectivement.
C'est Spider-Man tu as raison après un tremplin vers le cinéma ou le jeu vidéo, bah certains comme Chris Weston, dont on a parlé récemment dans un comics, bah dans le dernier Comics Weekly justement, qui, bah, on, Straczynski a donné ses derniers storyboards, enfin ses derniers scripts pour The 12, mais le monsieur est parti dessiner des storyboards pour le cinéma où ça paye plus. Ce qui est compréhensible, hein, comme je disais la dernière fois. Est-ce que c'est vraiment un tremplin pour accéder au milieu du cinéma ou du jeu vidéo? Je suis pas certain que ce soit vraiment un tremplin. Jimmy a fait une incursion dans le monde des jeux vidéo avec le DC Universe Online, mais il va continuer à dessiner des comics. Et après, on a le parcours inverse, avec des gens comme Geoff Jones, qui était assistant réalisateur de Richard Donner, qui bah, sont venus vers le comics. On a Straczynski, qui vient du monde du cinéma et de la série télé, qui sont arrivés au comics. On a Brian Michael Bendis aussi. Là, c'est plus des scénaristes. Brad Meltzer vient de la littérature. Enfin, on a plusieurs cas, c'est vraiment dépendant de chaque personne, quoi. Puis après, on a des gens qui disparaissent de la circulation. Des gens comme Howard Mackie, par exemple.
Qu'est-il devenu? Grande question.
Mais ouais, apparemment, monsieur n'écrit plus grand-chose, alors que pourtant il était si prolifique dans les années 90.
En tout cas, bon, ouais, enfin, il y a eu le relaunch aussi qui est passé par là.
Alors, bah, je pense que pour certains, ça peut être un moyen d'atteindre le cinéma ou les jeux vidéo, de se faire connaître. Mais pour d'autres, et même je pense que pour beaucoup aujourd'hui, le comic, c'est plus quelque chose qui fait autant rêver qu'avant. Et quand on en vient à faire du comic, c'est parce qu'on aimait le comic et on va pas partir vers autre chose, quoi. Enfin, en
Ah
tout
oui,
cas, ça, c'est ma
c'est
vision.
vraiment pour les passionnés.
Ouais, c'est ma vision des choses, en tout cas. Je peux me tromper, mais je pense que les nouveaux arrivants d'aujourd'hui, enfin les stars montantes d'aujourd'hui, ou même enfin de la dernière décennie, sont vraiment arrivés pour le comic parce qu'ils aimaient ça, parce que c'est quand même un média en perte de vitesse.
Oui, c'est pas très lucratif, hein. Comparé aux jeux vidéo et à l'industrie du cinéma, c'est certain. Et même
C'est
des
ça.
séries télé. Enfin, vaste sujet qui pourrait faire l'objet d'un long débat.
Bien peut-être.
On verra.
Peut-être. On verra. On n'exclut rien. Là, on fait assez court puisque bah, on est un peu limité en temps. On est déjà bien, bien, bien débordé sur le temps. Donc, bah, sans plus de choses. Hein. Je sais pas le mot qui vient.
Oui, sans plus de précision.
On va faire le petit tour habituel. Bah, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous laisser un commentaire pour réagir aux reviews, réagir aux news, réagir à la question de Fabien. N'hésitez pas. Et puis, bah, les derniers épisodes sur iTunes, hein, comme d'habitude. Et
Et tous
puis,
les épisodes sur le site qui va bientôt changer.
oui, fin du mois, normalement, si tout va bien, comme je le précise à chaque fois. Et on se quitte avec le traditionnel, le tant attendu, le magnifique, le mirobolant, le mot de la
Mot de
fin.
la fin, la citation même de la
Et je
fin.
crois que tu nous as encore trouvé un truc.
Une chanson. Parce que au fait, la dernière fois, alors j'espère que tu as regardé depuis ce clip. Formidable.
Non, je t'avoue, j'ai pas eu le temps.
Bon, ben, tu as
Franchement,
loupé.
j'ai bossé toute la semaine comme un malade, je n'ai pas eu le temps.
Tu as loupé un chef-d'œuvre. En tout
Mais
cas.
je n'ai pas oublié, hein, c'est sur ma to-do list, je te promets. J'irai voir
Mais en
Christophe
tout
en
cas,
direct.
est-ce que tu te rappelles de la gaffe et sa Zoubida?
Oui, malheureusement.
Voilà.
S'il y a des souvenirs qu'on aimerait occulter, comme ça, j'en sais rien.
Mais voilà, et ben j'ai regardé à nouveau le clip il y a pas si longtemps avec des potes sur Internet,
Donc
et
vous
un
avez la
moment.
réponse, Benny et Sadomaso.
Et, attends, attends, attends. Et un moment, Il dit au fait, j'ai cherché les paroles sur internet parce que j'avais compris autre chose. À un moment, il dit, arrive Mokhtar sur un scooter doré. Et moi, je vais te dire donc ce que j'avais entendu comme parole. Et je t'assure que quand on écoute la chanson maintenant et qu'on entend ça, enfin depuis que j'ai dit ça, tous mes potes et moi-même entendons ça, quoi. Et alors, j'avais entendu Harry Potter sur un scooter volé, Harry Potter sur un scooter volé. Voilà.
D'accord, donc cette circonstance avec la sortie du septième film.
En plus,
Donc
voilà.
on sait ce qu'il fait ce petit magicien là, hein? Après avoir
Oui.
niqué des vols de mort, monsieur va voler des scooters.
Oui,
Oh
il
là
va voler
là.
des scooters en plus. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'étais persuadé qu'il disait ça dans la chanson, et j'ai même cherché les paroles, parce que je me suis dit, attends, la gaffe, il pouvait pas dire ça au début des années 90, c'est pas possible, ça n'existait pas. Voilà.
La gaffe est un visionnaire.
Non, en tout cas, si tu écoutes la musique, tu entendras peut-être ça maintenant, auditeur.
Tu m'as peut-être pourri la chanson. Mais bizarrement, moi, j'avais jamais eu de problème avec cette phrase-là, mais peut-être que maintenant, tu m'en as mis
Bon, bah très bien, voilà.
un. D'accord. Bon. Eh bien, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Désolé pour l'épisode un peu plus long que d'habitude. On s'est laissé emporter sur pas mal de sujets, surtout moi. Et sur David Finch. Je te retiens, enfoiré. Si je te croise, je te pète la gueule. Ça, c'est dit.
Et écoutez la Zoubida, Elise
Oui,
Deglux.
écoutez-la, réécoutez-la et faites-en votre playlist sur votre iPod, iPad, iTunes. Je ne sais plus ce que je dis. Voilà, tout ça.
Toutes ces joyeusetés, comme je dis
Oui,
souvent.
voilà.
À la semaine prochaine, les amis.
À la semaine prochaine.